Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Hillary Clinton soulagée, la candidate démocrate n'aura pas à s'expliquer devant la justice pour avoir utilisé sa messagerie privée alors qu'elle était secrétaire d'État. Charlotte Alix nous appelle de New York dans un instant. Les services secrets russes perquisitionnent la radio Echo de Moscou, l'un des derniers médias indépendants en Russie. Nous verrons cela avec Marc Crépin. En France, Nicolas Hulot ne sera pas candidat à la présidentielle. Il estime ne pas en avoir les capacités et son retrait suscite le désarroi chez les écologistes. Nous écouterons le dépit de Noël Mamère. Et puis nous reviendrons sur le recours au 49-3 annoncé par Manuel Valls pour faire passer la loi travail. Un passage en force dénoncé par de nombreux socialistes, nous expliquera Stéphane Robert. Hillary Clinton échappe donc aux poursuites judiciaires dans l'affaire de ses emails. Ainsi en a décidé aujourd'hui le FBI au terme d'une longue enquête. La candidate démocrate à la Maison-Blanche avait utilisé une messagerie privée lorsqu'elle était à la tête de la diplomatie américaine. Alors le FBI critique l'imprudence de l'ex-secrétaire d'État, mais il préfère en rester là à 4 mois maintenant de l'élection présidentielle. Charlotte Alix nous appelle de New York.
Hillary Clinton a probablement accueilli la nouvelle avec un ouf de soulagement. Après un an d'enquête, le FBI est arrivé à la conclusion que l'ex-secrétaire d'État n'avait pas agi intentionnellement ni cherché à dissimuler des informations.
S'il existe des preuves de violation potentielle des règles concernant la gestion des informations classées, notre jugement est qu'aucun procureur censé n'engagera des poursuites dans cette affaire.
Pour autant, le directeur de l'agence de renseignement l'a durement critiqué pour son amateurisme, car le FBI a trouvé 110 emails classifiés au moment où ils ont été reçus ou envoyés, contrairement à ce que martèle l'intéressé depuis un an.
Si nous n'avons pas trouvé de preuves claires qu'Hillary Clinton et ses collègues avaient intentionnellement violé les lois relatives aux informations classifiées, il y a des preuves qu'ils ont été extrêmement négligents dans leur traitement de ces informations hautement sensibles et classifiées. Toute personne dans la position d'Hillary Clinton aurait dû savoir qu'un système non sécurisé n'était pas l'endroit pour ce genre d'échange.
Voilà, Hillary Clinton débarrassée d'un poids judiciaire, mais certainement pas du poids politique de cette affaire. Donald Trump a aussitôt réagi sur Twitter en dénonçant un système corrompu, une ligne d'attaque qu'il va continuer d'exploiter sans relâche.
Charlotte Alix, l'une de nos correspondantes aux États-Unis, Hillary Clinton qui tient en ce moment son premier meeting de campagne avec Barack Obama. Ça se passe à Charlotte en Caroline du Nord. Décidément, Vladimir Poutine a bien du mal à accepter la contestation dans son pays. Le FSB, l'héritier du KGB, a perquisitionné aujourd'hui les locaux de la radio indépendante Echo de Moscou. Les services secrets russes se reprochent à la radio d'avoir publié sur son site un appel à l'indépendance de la Tchétchénie. Marc Crépin, il s'agit là d'un nouveau tour de vis dans le contrôle des médias en Russie.
Des perquisitions dans une salle de rédaction, cela s'était déjà vu en Russie. Mais une visite des enquêteurs du FSB, autrement dit des services secrets, dans les locaux de l'emblématique radio Echo de Moscou, c'est nouveau. Echo de Moscou, dernier bastion de la résistance d'un journalisme libre, créatif, qui ne se laisse pas impressionner par le pouvoir politique, rassemble chaque jour 1 million d'auditeurs, pour la plupart, dans l'opposition à Vladimir Poutine. Le site internet de la radio est extrêmement fréquenté. Lorsqu'Andrei Piontkovski y poste une tribune sur l'indépendance de la Tchétchénie comme solution au malaise qui règne dans ce petit pays, cela est très mal perçu par la majorité. D'ailleurs, c'est une députée ultra-conservatrice et nationaliste du parti Russie Unie qui réclame des poursuites contre la radio. Une loi interdit en effet de remettre en cause toute possession territoriale de la Fédération de Russie, comme par exemple la Crimée ou la Tchétchénie. Et même si l'enquête ne fait que débuter, Andrei Piontkovski, qui risque gros, n'a pas attendu son reste. Sa tribune avait été retirée et lui a quitté la Russie. Son avocat a prévenu, il ne reviendra plus.
Marc Crépin, notre correspondant à Moscou. Au Royaume-Uni, après le Brexit, il ne reste plus que 3 candidats. La succession de David Cameron au poste de Premier ministre. Theresa May, la ministre de l'Intérieur, est arrivée largement en tête d'un premier vote des députés conservateurs. Aujourd'hui, elle devance sa collègue de l'énergie, Andrea Leadsom, et le ministre de la Justice, Michael Gove. La semaine prochaine, les députés choisiront les 2 finalistes. Ce sera ensuite aux 150 000 militants conservateurs d'élire le vainqueur qui sera intronisé le 9 septembre prochain. En France, l'actualité politique est dominée ce soir par le renoncement de Nicolas Hulot. Dans un message posté sur sa page Facebook, l'ancien animateur de télé explique qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle l'an prochain. Nicolas Hulot, je cite, ne se sent pas suffisamment armé ni aguerri pour endosser l'habit de l'homme providentiel et présidentiel. Fin de citation. C'est un coup dur pour la mouvance écologiste qui comptait sur lui pour porter bien haut les couleurs de l'écologie politique. Certains sondages donnaient même Nicolas Hulot à 10% d'intention de vote. On écoute la déception du député de Gironde, Noël Mamère.
Je ne peux que regretter la décision de Nicolas Hulot parce que nous étions nombreux à penser qu'il est le mieux placé d'entre nous pour défendre notre projet de société. Nous le pressions de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Il l'a fait. Il faut que maintenant, dans la mesure où il a décidé de participer à la promotion d'un monde meilleur, ou en tout cas d'un monde plus orienté vers les questions de l'écologie, il faut absolument qu'il nous aide dans ce combat que nous allons mener à l'occasion des présidentielles, parce qu'il ne peut pas, les écologistes ne peuvent pas être absents. Donc nous allons nous organiser maintenant, je l'espère dans les meilleures conditions de respect mutuel, pour trouver, pour désigner celui ou celle qui portera notre projet à l'occasion des présidentielles.
Voilà le député écologiste Noël Mamère. Il répondait à Mélanie Delaunay. L'autre événement politique de la journée, c'est bien sûr le nouveau recours au 49-3. Pour la deuxième fois cette année, Manuel Valls décide d'engager la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter la loi travail. Le Premier ministre qui n'a pas trouvé de compromis avec les députés PS hostiles au texte de Myriam El Khomri. Stéphane Robert, il y avait pourtant sur la table ce matin un amendement sur les heures supplémentaires susceptible de déboucher sur ce compromis. Mais Manuel Valls n'a rien voulu entendre, Stéphane.
Oui, c'est un amendement qui avait été signé par près de 130 députés socialistes, presque la moitié du groupe, rédigé par le député de Seine-et-Marne, Olivier Faure, fidèle depuis toujours à François Hollande et au gouvernement, et qui prévoyait une majoration minimum de 25% pour les heures supplémentaires. S'il est adopté, expliquait ce matin les frondeurs, on renonce à tout le reste, tous les autres amendements. Mais Manuel Valls a refusé en brandissant une fois encore le 49-3, à la grande déception du député Olivier Faure.
Nous avions la possibilité de trouver un accord sur un texte qui a fait l'objet de nombreux débats, qui est un bon texte, qui apporte de nouveaux droits aux salariés, mais en même temps qui n'est pas compris. Et donc on avait la possibilité là de trouver un accord général avec ceux qui s'opposaient, comme avec ceux qui avaient soutenu le texte royalement, comme ça a été mon cas. Et donc le recours au 49-3, je le regrette profondément, j'avais même amèrement.
Alors évidemment, on a un peu de mal à comprendre l'attitude du Premier ministre, mais selon le rapporteur du projet de loi, le socialiste Christophe Sirugue, il faut considérer que cet amendement était un leurre, qu'il devait permettre d'engager les discussions à l'Assemblée sur cette question des heures supplémentaires, mais aussi sur tout le reste.
Je l'avais proposé moi-même il y a un mois, et les mêmes qui la signent ce matin m'expliquaient à l'époque qu'ils ne la voulaient pas. Et donc aujourd'hui, laisser à penser que toutes les questions qu'il pose depuis un mois se résorberaient avec un seul amendement sur les heures sup, c'est tromper tout le monde.
Le problème pour le député valsiste Philippe Doucet, c'est que ce débat sur la loi travail est pollué politiquement. Pollué parce qu'on a, selon lui, à l'Assemblée, la tentative de constitution d'une majorité alternative contre le président et son gouvernement. C'est pour ça que le 49-3 était inévitable.
C'est inévitable parce qu'il y a toute une partie de députés socialistes qui ont déjà la primaire en tête et qui ont envie de régler des comptes avec François Hollande. Donc on aurait repeint la loi en rouge, en vert, avec des petits pois jaunes. De toute façon, ils sont déjà dans la logique de la primaire et de la présidentielle. Donc à un moment donné, quand ici ça se transforme en cours de récréation, il faut siffler la fin de la récréation.
Mais dans ces conditions, on peut imaginer que Manuel Valls est peut-être lui aussi dans la posture, avec dans l'idée de récupérer le Parti Socialiste amputé de ses courants les plus gauchisants. Toujours est-il en attendant qu'il va y avoir tentative de constitution d'une motion de censure de gauche. Les frondeurs ont jusqu'à demain 15h15 précisément pour réunir 58 signataires.
Stéphane Robert, merci. Alors que Manuel Valls dégainait le 49-3 à l'Assemblée, plusieurs milliers de manifestants hostiles à la loi travail manifestaient dans les rues avec une mobilisation en forte baisse pour cette 12e journée d'action. 30 000 manifestants dans toute la France selon les autorités qui en avaient compté deux fois plus la semaine dernière. À Paris, ils étaient 7 000 selon la police, 45 000 pour les syndicats. Mais quelques soit la source, ces chiffres sont en recul. On termine ce journal avec la météo. Demain, le soleil s'installe sur la moitié nord. Il fera beau dès le matin en Bretagne. Dans le nord-est, après une matinée humide, les éclaircies arriveront dans l'après-midi. Au sud, un temps estival, malgré quelques nuages orageux sur les Pyrénées. Température maximale toujours inférieure au normal de saison sur la moitié nord, 20 à 24 degrés. 25 à 30 au sud, jusqu'à 34 sur les régions méditerranéennes. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.